Cinémag sur Radio Grand Ciel, une émission de l'option cinéma du lycée Rotrou de Dreux, proposée par
Sandrine Cornu,
Christelle Vaudève
et Thierry Méranger. Bonjour à toutes et à tous. Après deux séances Cinéclic consacrées au documentaire, Cinéclic revient à la fiction le 6 février avec une séance exceptionnelle au lycée Rotrou autour du film de Richard Fleischer, L'étrangleur de Boston. Alors, L'étrangleur de Boston, qu'est-ce que c'est ? Autant le dire tout de suite, L'étrangleur de Boston est l'un des grands films les moins connus de l'histoire du cinéma. C'est l'œuvre d'un réalisateur dont on commence seulement à remarquer qu'il a été autre chose qu'un habile artisan. Je veux parler de Richard Fleischer, né en 1909, décédé en 2006. C'était également un expérimentateur et quelqu'un qui a, somme toute, laissé une œuvre. Alors rappelons d'abord certains de ses titres. Le voyage fantastique, vous savez, où on se promenait à l'intérieur du corps humain. Soleil vert, où la nourriture que l'on absorbait dans le futur n'était peut-être pas celle qu'on croyait, mais aussi des films de genre plus aventureux comme 20 000 lieues sous les mers, comme Barabbas ou comme Les Vikings. Et à côté de cela, le travail de Richard Fleischer a porté sur le film noir, sur le policier, sur le thriller, avec un intérêt tout particulier pour la représentation des tourments psychologiques. On va donc citer L'énigme du Chicago Express, ou La fille sur la balançoire, ou même Le génie du mal. Évidemment, L'étrangleur de Boston en 1968 est l'un des fleurons de cette œuvre. On pourra aussi citer Rennington en 71 et puis Terreur aveugle en 1972. Donc en 68, c'est le retour au polar pour Richard Fleischer. On sait son goût pour l'inspiration de faits divers réels qui sont souvent vus par la médiation d'un essai ou d'un roman. Et c'est le cas ici. C'est pourtant la Fox, sa compagnie, qui lui propose d'adapter l'histoire de l'étrangleur d'après un essai d'un certain Gerald Frank. Rappelons que cet essai s'inspire d'un fait divers authentique. C'est le cas d'Albert DeSalvo. Albert DeSalvo, eh bien, celui qu'on va voir interprété dans le film par Tony Curtis. C'est un assassin de 13 femmes entre 1962 et 1964 à Boston, d'où le titre. C'est donc l'un des plus célèbres serial killers, mais sa culpabilité, il faut le savoir, n'a jamais été totalement prouvée et le personnage dans la vie réelle est mort en prison. En tout cas, sa légende est toujours vivace, on lui aurait imputé plus de 300 agressions et il a été arrêté en 1964 et a reconnu un certain nombre de ses meurtres. En 1968, quand sort le film de Richard Fleischer, un autre film, qui s'appelle Le Tueur de Boston, lui a déjà été consacré. On sait que le tueur supporte très mal ses adaptations et il va intenter un procès au studio à la sortie du film de Richard Fleischer. DeSalvo sera débouté, le film va se tourner puis être montré et à ce jour, l'un des centres d'intérêt de L'étrangleur de Boston est d'offrir à Tony Curtis l'une de ses plus belles performances. Vous connaissez cet acteur qui est un des plus grands acteurs du cinéma américain. Il faut savoir qu'à l'origine, Fleischer voulait un inconnu alors que la production voulait une star et on a notamment suggéré des gens comme Warren Beatty ou Ryan O'Neill. Plus de 200 comédiens ont été auditionnés pour le rôle de DeSalvo parmi lesquels Anthony Perkins, James Caan et même un certain Peter Falk qui n'avait évidemment pas encore tourné Columbo à l'époque. En fait, Fleischer a d'un seul coup l'idée d'imposer Tony Curtis après l'avoir fait tourner dans Les Vikings 10 ans auparavant. Les producteurs d'abord sont contre et ils refusent d'envisager la participation de l'acteur. C'est alors que Fleischer arrive avec un stratagème. Il va faire porter dans le film à Tony Curtis une prothèse nasale. Il l'affuble de cette prothèse, il prend des photos et va demander son avis à Richard Zanuck, le producteur. Zanuck n'y voit que du feu, il trouve que l'acteur inconnu en question sera parfait pour le rôle et il pose malgré tout une question à Fleischer. Il est très bien ce garçon, mais sait-il jouer ? Eh bien oui, monsieur Zanuck, Tony Curtis savait jouer. Alors le grand acteur dans L'étrangleur de Boston fait une performance absolument remarquable. D'abord parce qu'il joue et comment un psychopathe alors qu'il est littéralement habité par son personnage, c'est un vrai contre-emploi pour Tony Curtis, qu'on a plutôt l'habitude de voir dans des rôles plus détendus. Je pense en particulier à certains Lame Show, à sa performance à côté de Marilyn, ou au Tony Curtis tel qu'on le verra dans la série Amicalement Vôtre avec Roger Moore. Ici, c'est un personnage particulièrement complexe, effrayant, torturé. Ce rôle est d'autant plus intéressant qu'il est assez paradoxal, puisque dans la première partie du film, il s'agit de meurtre, d'une enquête policière, et bien le personnage interprété par Tony Curtis n'apparaît pas. Lorsqu'on le voit enfin, Fleischer nous propose des images presque surréalistes de l'univers de De Salvo. C'est justement l'intérêt du film, celui d'explorer à la fois les tourments intérieurs de l'individu et les arcanes d'une histoire policière. Arrivé en son milieu, le film semble se redéployer d'une toute autre façon. L'assassin va presque devenir un martyr. Et l'enquêteur, magnifiquement interprété par Henry Fonda, semble abandonner la justice pour la vérité. La fin du film sera une des plus belles scènes de confrontation de toute l'histoire du cinéma. À la clé, une brillante métaphore sur la culpabilité et l'innocence. Nous ne savons plus à la fin qui est victime et qui est coupable. Il faut noter que ce relativisme est à la base de la construction du film lui-même. Nous avons dit que L'étrangleur de Boston était une brillante performance technique et qu'elle reflétait les envies d'un Richard Fleischer qui était un grand expérimentateur. Ici, le défi technique tient en deux mots anglais, le split screen ou l'écran partagé. Ces écrans partagés, qui sont maintenant très nombreux dans les films et les émissions de télévision, ils étaient plutôt rares dans les années 60. Il semblerait que ce soit lors d'une visite à l'exposition universelle de Montréal en 1967 que Fleischer ait vu tout l'intérêt de ce split screen. Une même action pourrait bénéficier de points de vue différents, ou alors plusieurs actions, apparemment éloignées l'une de l'autre, dans l'espace et dans le temps, pourraient se trouver rapprochées. En tout cas, Fleischer va imposer le split screen à sa production et il va être le premier film de fiction à utiliser le split screen de façon absolument systématique, même si évidemment on peut mentionner les écrans multiples d'Abel Gance filmant Napoléon comme étant les grands ancêtres. Ce qui est sûr, c'est que Fleischer va jusqu'à proposer 8 points de vue au sein de la même image. On peut pointer de ce fait le lien du film avec la BD, ce qui est facilité par l'emploi du cinémascope et de la couleur, absolument somptueux. Évidemment, le film va faire école. On se souviendra d'autres films comme L'affaire Thomas Crown ou comme les films de Brian De Palma, Carrie au bal du diable ou Snake Eyes ou même de Time Code de Mike Figgis beaucoup plus tard. Mais l'essentiel, c'est sans doute que ce split screen n'apparaisse jamais comme gratuit. En effet, à l'écran partagé correspond la schizophrénie du personnage ou plutôt le phénomène de personnalité multiple dont il semble souffrir. Tout le film, en ce sens, va être vu comme un cheminement vers l'unité, du point de vue de son tournage, mais aussi du point de vue de l'intrigue et de la reconnaissance du personnage comme un seul être.
Pour poursuivre cette émission, quelques mots d'un film actuellement à l'affiche au cinéma Ciné-Centre. Il s'agit de In the Fade, réalisé par Fatih Akin. Qui est Fatih Akin? Alors Fatih Akin est un réalisateur allemand d'origine turque, un des rares, on peut dire, un des rares cinéastes allemands à avoir une renommée internationale. Avant de réaliser In the Fade, dont on reparlera dans quelques instants, Fatih Akin a réalisé quelques films qui ont beaucoup fait parler d'eux. Je pense par exemple à Hedon, qui a été Ours d'Or à Berlin en 2004. Je pense aussi à De l'autre côté, prix du scénario à Cannes en 2007. Et enfin, je pense à Soul Kitchen, grand prix du jury La Mostra de Venise en 2009. Les thématiques qui sont chères à Fatih Akin sont celles de l'immigration, puisque lui-même est fils d'immigrés turcs qui a grandi à Hambourg, en Allemagne. Donc la question de l'immigration est très présente dans ses films, la question de la frontière. C'est aussi quelqu'un qui aime à réfléchir sur la condition humaine, sur la vie, la mort, des films donc plutôt dramatiques, des personnages qui sont souvent un petit peu cabossés par la vie, des personnages qui sont dérangés Ciné, qui sont un petit peu perdus. Exception faite, je parlais de drame, mais Soul Kitchen, qui est une comédie, même si on retrouve la question de l'immigration qui est un petit peu présente quand même dans le film à travers le personnage principal. À noter la découverte d'un grand comédien par Fatih Akin. Il s'agit du comédien allemand d'origine turque, Berol Ünal, qu'on a pu voir avec beaucoup de bonheur dans Head On et dans Soul Kitchen. Des films bouleversants, des films dont on ne sort pas indemne. Et voyons si c'est le cas de In the Fade. Il me semble que Fatih Akin a amorcé un petit virage hollywoodien avec ce film. Mais Sandrine, tu vas peut-être nous en dire plus.
Alors je vais d'abord vous parler du pitch d'In the Fade. L'histoire se déroule à Hambourg. Katia vit une vie de famille épanouie avec son mari Nouri, d'origine kurde, et son fils unique Rocco, jusqu'au jour où ces deux derniers sont tués dans un attentat à la bombe perpétré par un groupe néo-nazi. On retrouve dans ce film une constance de Fatih Akin qui est l'attachement à ses origines turques et au thème de l'émigration. Fatih Akin s'inspire ici d'attentats commis contre des immigrés par un trio néo-nazi qui s'appelle la NSU, qui a œuvré entre 2000 et 2007. D'ailleurs, il y a une série sur ce même thème qui a eu un beau succès en Allemagne, qui s'appelle Mitten in Deutschland. Son film exprime l'inquiétude de la montée du néo-nazisme allemand et du racisme ambiant, mais la fin du film dérange par sa morale. Il pose beaucoup de questions, puisque le film se divise en trois parties. La première partie, comme je le disais tout à l'heure, traite du bonheur familial, de l'insouciance, puis il y a le procès et enfin la vengeance. Donc il pose en effet le problème de cette vengeance et des questions comme peut-on se rendre justice soi-même, la loi du talion est-elle une solution et la violence kamikaze va-t-elle régler ces problèmes de racisme ou néonazisme. Donc le film est difficile à classer dans un genre parce que on peut se demander si c'est un film de procès, puisqu'en effet dans le film, il y a une grande partie qui est consacrée à ce procès et à l'injustice dont va être victime Katia. C'est aussi un thriller et un drame, et c'est aussi un film de vengeance.
Oui, c'est cette fin qui me faisait dire que le film, enfin que Fatih Akin semble avoir pris un petit virage hollywoodien auquel on n'était pas tout à fait habitué avec Fatih Akin, qui a un peu l'habitude de travailler un peu plus en nuance.
Du coup, mon avis est assez mitigé sur ce film et me pose problème quant à cette fin assez dérangeante. Allez voir quand même ce film, car n'oublions pas que Diane Kruger a eu le prix d'interprétation féminine à Cannes, et c'est vrai qu'elle tire son épingle du jeu. Elle est là, elle est omniprésente dans tout le film et elle joue.
Elle revient dans le pays de ses origines.
Exactement. Et elle interprète parfaitement son rôle. Mais voilà, cette fin pose problème et débat.
Pour terminer cette émission, nous vous rappelons que le prochain Cinéclic aura lieu le mardi 6 février au lycée Rotrou. C'est une séance ouverte à tous. Et pour se quitter en musique, un petit hommage à Tony Curtis avec le générique d'une série cultissime. À la semaine prochaine.